Europe numéro 1 à Europe 1, 50 ans d'archives sonores.
Ici Europe numéro 1.
Here is Europa numero 1.
This is Europe number 1.
Il fera jusqu'à 26 à 27 degrés à Paris cet après-midi, 29 à Nantes, 32 à Bordeaux et à Périgueux, à Toulouse et 33 à Pau.
Vous êtes formidables. Pour vous en convaincre, Europe numéro 1 présente comme chaque mardi l'émission de Jacques-Antoine. Vous êtes formidables.
L'émission de Daniel Philippe.
Du cœur au boulot, wow, wow, Mélodie Parade, Giracle.
Troisième but, 3-0. Nous sommes, ils sont tous ensemble. La France entière est championne du monde de football. Historique.
Européen, découverte. Européen.
We copy you down, Eagle. You're looking good here.
Ça y est.
Le matin.
Voici donc Musicorama sur le Tour de France, présenté par l'huile Le Sieur.
Pulpeux comme la pêche.
Marc Tronchot.
Les enfants d'Europe 1, à nouveau réunis comme chaque dimanche entre 10h et 11h, vous êtes quelques-uns à m'avoir demandé de vous faire revivre de grands moments de la conquête du ciel et de l'espace. Et dans cette maison marquée par l'empreinte de la famille Lagardère, c'est bien sûr un plaisir de vous contenter. Pour m'accompagner, pour vous accompagner, j'ai fait venir le super-héros des journalistes, plusieurs fois distingué par ses pairs comme le meilleur d'entre eux. C'est un enfant d'Europe 1, il a été chanteur amateur, animateur, reporter à Europe 1, il est le créateur du magazine Télé Pégase. Et bien sûr, il est le spécialiste de tout ce qui vole à Europe, j'ai nommé Bernard Chabert. Salut Bernard.
Salut.
Bienvenue à bord. La durée du vol approximativement d'environ une heure. L'altitude sera élevée, la température extérieure aussi. Il n'y a pas d'hôtesse à disposition. Bon, mais ça va pas trop dépayser, Bernard ?
Non, ça va.
Bon, pour commencer, un reportage qui s'impose quand on parle avion dans une radio, c'est le passage du mur du son. Nous sommes en 55, l'appareil est un mystère de la maison d'assaut, son pilote s'appelle le commandant Paul Boudier. Il a déjà, comme on dit, cassé le mur du son 2 ans plus tôt, mais ce jour-là, il le fait en vol horizontal. Reportage Europe numéro 1, signé Pierre Zanettacci.
Sur l'aérodrome de Melun-Villaroche, où je me trouve en ce moment, je suis à côté d'une voiture radio des avions Marcel d'assaut. Je fais très peu de bruit car...
Tandis que je vous parle, le commandant Boudier est en vol à bord du Mystère 4B1 et il est en train de tenter de passer pour la 6e fois dans la journée car il l'a réalisé 4 fois ce matin, le mur du son à l'horizontale. Sur la piste, comme je vous le disais tout à l'heure, une voiture radio... Quelques officiels, personne n'a le droit d'approcher ce prototype qui est vraiment unique en son genre, tant en France qu'en Europe.
Le commandant Boudier va se poser dans quelques instants. Je vois son appareil qui est environ à 1200 mètres d'altitude et qui prépare son approche en faisant un virage. L'appareil s'approche de nous. C'est un avion qui ressemble au familier, au classique Mystère 4, avec cette seule différence que son nez est très affiné pour permettre une plus grande visibilité au pilote. Vous entendez les tuyères du Super Mystère 4B1. Le Mystère 4B1 vient de s'immobiliser à proximité de nous. Le cockpit s'ouvre, on approche l'échelle, le commandant Boudier descend. Monsieur Serge Dassault, fils du constructeur, se jette à son cou, l'embrasse et je vais essayer maintenant de les approcher l'un et l'autre. Commandant, est-ce que vous avez... quelque chose à nous apprendre?
Eh bien écoutez, j'ai bien sûr quelque chose à apprendre, en ce sens que pour la première fois, un avion de guerre français a atteint et dépassé la vitesse du son en vol horizontal. C'est la première fois que cela soit non seulement en France, mais même en Europe. Ceci est la chose nouvelle. À vous apprendre d'autres, il n'y a rien, car cet avion est vraiment une pure merveille. Et À chacun des 5 vols que j'effectue jusqu'à présent, chaque fois que je me posais, je disais aux ingénieurs et aux mécaniciens qui étaient là, rien à signaler, tout va bien.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement, mon commandant, ce que représente pour vous le mur du son ?
Le mur du son est une vue de l'esprit maintenant. C'est un vieux souvenir qui a fait couler beaucoup d'encre. Mais maintenant, sur un avion comme ça, c'est absolument quelque chose de dépassé. Peut-être trouverons-nous plus tard et plus avant dans les vitesses supersoniques de nouveaux phénomènes qui mériteront des études et qui amèneront des problèmes à résoudre. Mais pour l'instant, maintenant, le mur du son n'existe plus.
C'est à M. Serge Dassault que je vais demander maintenant, puisque c'est presque lui qui l'a construit et conçu, comment cet avion et combien de temps cet avion a demandé pour être mis en état de vol?
Eh bien, cet avion a été construit en 12 mois depuis le début de sa mise en étude. Cela fait 5 vols ce qu'il a commencé ses essais. Nous pouvons dire que c'est la première fois qu'un avion, au bout de 5 vols, a pu être passé au centre d'essais officiel. Cet avion actuellement nous donne toute satisfaction et nous espérons qu'il aura la faveur de tout le monde et qu'il donnera à la France une aviation digne d'elle.
C'est un beau reportage ça, hein, Bernard.
Ah oui, parce que le premier passage du mur du son, c'était seulement 8 ans auparavant. Finalement, à un moment, Boudier dit « c'est quelque chose qui est derrière nous, ça va, on maîtrise, on sait faire ». Mais en fait, il y avait 8 ans qu'on avait pour la première fois passé le mur du son. Ça a donné lieu par la suite à la légende, l'étoffe des héros, etc.
En position horizontale, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que l'avion poussait suffisamment fort, que le moteur était suffisamment puissant pour pouvoir accélérer l'avion. Jusqu'à cette époque-là, on le passait en léger piqué ou même en piqué prononcé, ce qui fait qu'évidemment, en descente, on prend la vitesse plus facilement. Donc ça voulait dire que l'équation assez subtile entre, pour l'époque, entre un moteur qui poussait et une aérodynamique suffisamment fine pour pouvoir passer à travers cette espèce de matelas d'air comprimé qu'est le mur du son, c'était pas rien. Quoi. Aujourd'hui, ça paraît banal, mais à l'époque...
Tu as déjà passé le mur du son.
Oui, oui.
Ça fait quel effet pour ceux qui ne savent pas ?
Ça dépend de l'avion. Si on le passe sur un très vieil avion comme à l'époque, ça se sentait un peu. Il y avait quelques légers tremblements, mais évidemment, sur Concorde, par exemple, pour l'avoir souvent passé sur cet avion-là, là, c'était jamais qu'un chiffre sur un cadran ou sur un indicateur et on ne sentait strictement rien. Bon, c'est vrai que Concorde, ça représente une espèce de sommet de pyramide en matière de savoir-faire aéronautique. Les avions d'aujourd'hui sont fabuleux, mais à cette époque-là, avion égale vitesse.
Oui, parce que quand j'ai fait les présentations tout à l'heure, j'ai omis de dire que tu es pilote depuis quand ?
Depuis l'âge de 16 ans, et j'en ai 40 de plus, quoi, un peu plus de 40 de plus.
Et comment tu viens à la radio ?
C'est un truc qui m'avait fasciné. Moi, je voulais être pilote de ligne, mais j'avais des lunettes, donc je pouvais pas. Et par contre, mon père, lui, était rentré à l'aéropostale en 1929 comme pilote à l'époque héroïque. Enfin, c'était pas l'aéropostale d'ailleurs, c'était les lignes, la TECOR. Et donc, à force, j'ai grandi là-dedans, j'ai aucun mérite. C'est un peu comme les familles de marins. Hein. Donc, côté paternel, c'était des aviateurs à l'ancienne.
T'es tombé dans le réacteur, quoi.
Ouais. Et puis j'ai grandi dans une grande maison qui s'appelle Air France, puisque mon père en était un des fondateurs. Et donc, très tôt, j'ai volé. Je reconnais avoir eu beaucoup, beaucoup de chance, parce que dans des familles comme ça, on se trimballe beaucoup.
Mais ça explique pas la radio, ça.
C'est venu après parce que quand j'ai vu que je pourrais pas être pilote, parmi les amis de mes parents, il y avait un monsieur qui était pas dans cette maison-ci, mais qui était à RTL, qui s'appelait Georges Panchenier, et qui était un formidable journaliste, reporter, comme on en faisait à l'époque. C'était une voix. Et Panchenier, un soir, dînant à la maison chez mes parents, je devais avoir 15 ans à peu près, m'avait dit « mais tu devrais regarder la radio telle qu'on l'a fait en France ». Et il m'avait cité cette maison-ci, Europe 1, entre autres. Il m'avait dit « telle qu'on l'a fait en France, tu la trouveras peut-être nulle part ailleurs ». Des radios qui étaient les premières radios, je dirais, on les aurait appelées radios libres si le terme avait été usité à l'époque. Et donc, Panchenier, le premier, m'a accroché comme ça. Puis ensuite, après avoir fait une licence en droit, parce qu'il fallait bien faire quelque chose après le bac, comme on disait à l'époque, j'ai fait une licence en droit public. Et ensuite, j'ai demandé à faire un stage dans un studio qui appartenait à l'ORTF de l'époque, qui était la Maison Lafitte, à Locora, avec des gens comme Panchenier, justement. Patrice Blanc-Francard, qui a fait une carrière ailleurs, mais qui
à l'époque
était un fabuleux preneur de son. Et puis, à cause de Patrice, Patrice adorait le rock'n'roll, et moi aussi, et donc et je faisais un peu de musique. Et donc, Patrice, quittant ce circuit-là pour entrer chez EMI à un moment, m'avait dit, viens faire un disque chez nous. Alors, j'étais allé chez eux, j'avais fait un disque, et puis ce disque est passé ici, à Europe, et puis il a eu un certain succès, je dirais, dans le hit parade de l'époque. Et puis j'en ai fait un deuxième, et puis un troisième, et puis là-dessus, j'ai rencontré Lucien Maurice, qui voulait me connaître, qui était quand même un des grands personnages de l'histoire d'Europe. Et Lucien, je sais pas pourquoi, il s'était attaché à ce gamin que j'étais. Et puis finalement, il m'avait dit, mais toi, il faut que tu fasses la radio.
Et c'est comme ça que tu es rentré à Europe.
Ouais, il m'avait amené à Jean Gorini, il m'avait amené dans le bureau de Gorini en disant, tu le prends. Et un mois et demi après, j'étais à Houston pour couvrir Apollo 14.
Alors tout à l'heure dans le reportage, on a entendu évoquer le nom de Dassault, grande l'aviation. J'ai retrouvé dans les documents d'Europe 1 un document tout à fait extraordinaire, la rencontre dans l'émission Découverte animée par Jean-Pierre Elkabbach de deux grands industriels, l'avionneur Marcel Dassault et Sylvain Floira, l'homme d'Europe 1. La complicité de deux géants réunit l'espace d'une émission en 1985 dans les studios de la rue François 1er.
Vous savez que vous aussi, vous avez été classé, monsieur Dassault, dans le sondage de l'événement du jeudi. Vous êtes l'un des 5 managers français les plus sympathiques pour les Français. Ça vous fait plaisir, probablement, non ?
J'en parle mal.
Oui. Découverte avec ce soir Marcel Dassault. L'expansion parle ce mois-ci, monsieur Dassault, de votre prochain avion, le Falcon 900. Et l'expansion dit que c'est le dernier né de Pépé Dassault. Est-ce que Pépé Dassault, c'est un peu familier pour vous ?
Non, c'est gentil.
Comment vos petits-enfants vous appellent-ils, par exemple ?
Oh, il m'appelle Coco.
Pourquoi Coco ?
Ah, je ne sais pas.
Monsieur Dassault, justement à ce propos, j'ai calculé que si vous aviez pris votre retraite à l'âge où généralement on la prend, vous seriez retraité depuis près de 40 ans, c'est-à-dire en 1945. Alors on imagine tous les avions qui n'auraient pas été construits.
Oui, sûrement, en 45. J'ai entendu qu'il y avait la guerre avant, on n'avait rien fait. Alors...
À quel âge on devient vieux, monsieur Dassault, d'après vous ?
On devient vieux quand on ne travaille plus. Parce qu'on s'embête, on s'abrutit, et on s'aperçoit qu'on est vieux. Alors que quand on travaille, on ne s'aperçoit pas.
Alors, j'ai été heureux de vous voir tout à l'heure avec le président Floira, Sylvain Floira, qui est le fondateur d'Europe 1.
Oui.
Et c'était une image assez extraordinaire de vous voir ensemble. Et d'ailleurs, chaque fois que vous venez, M. Floira, vous êtes là pour l'accueillir.
Ah, toujours.
Oui,
et toujours.
Vous vous connaissez depuis combien de temps ?
Écoutez, M. Dassault, je le connais vraiment depuis le mois de juillet 1955, date à laquelle j'ai acheté Breguet à la suite du décès de M. Louis Breguet. Voilà, vraiment, à partir de ce moment-là, nous avons eu des contacts fréquents par la profession. Ça a été vraiment le grand moment.
Oui, mais il y a eu un autre moment avant.
Ah, ben il y en a eu beaucoup. Il y a eu, comme je vous le disais tout à l'heure, j'avais 15 ou 16 ans, et je travaillais dans une usine rue de Flandre, et il fallait raboter des planches de noyer sec, et c'était très difficile, parce que si on ne les prenait pas exactement dans le fil du bois, ça faisait des éclats, et ça évitait de faire des bons collages. Et alors, le chef d'atelier m'avait désigné que c'était moi le seul qui était habilité à raboter les planches de noyer pour les hélices bloc. Je vous parle de ça, j'avais 17 ans, alors pas la peine de vous dire mon âge, vous le connaissez.
Mais, M. Floira, qu'est-ce qui fait, à votre avis, le succès de Marcel Dassault ?
Ah ben, Marcel Dassault, pour moi, est un génie en matière aéronautique.
Ah, vous dites ça parce qu'il est là ?
Ah non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Ça, alors, je vous garantis, vous me demanderiez mon avis sur Marcel Dassault, je dirais qu'en matière aéronautique, c'est un génie. Ce n'est pas pour moi... Et j'ai été à côté de lui dans la construction de l'aéronautique, et je l'ai toujours pris pour un génie. Ça, il n'y a pas de question.
Oui, c'est très gentil, mais dans une autre forme, un Floira a fait à peu près la même chose que moi.
Voilà, l'échange de fleurs entre Floira et Dassault, c'est effectivement de génie. On a l'impression d'un résumé de l'histoire en entendant évoquer ces noms, Breguet, Bloch. On est passé en quelques instants dans cette émission du mystère au Falcon.
L'hélice Bloch, c'est-à-dire la première création du tout jeune Marcel Dassault, qui s'appelait Marcel Bloch à l'époque, et c'était en 1918, c'était à la fin de la Première Guerre mondiale, et Sylvain Floira, il rabotait des bouts de bois pour fabriquer des hélices Bloch, créées par ce tout jeune ingénieur qui sortait à peine de la première promotion de super-héros, qui était Marcel Dassault. Mais ces gens-là, ce qui est fabuleux, c'est qu'ils ont quand même établi les fondations d'entités qui fonctionnent encore aujourd'hui. Aujourd'hui, Dassault est toujours le plus grand constructeur au monde, et Dieu sait qu'il y a de la concurrence, en matière d'aviation d'affaires, par exemple, c'est pas rien. Il y a un truc fantastique avec Marcel Dassault, il a jamais dit « je », il disait toujours « on ». Et chez lui, c'est une vérité de chez Dassault, quand on y va encore aujourd'hui, on a l'impression d'être dans du compagnonnage à l'ancienne. Parfois on se dit, mais c'est quasiment ringard leur façon de parler. Et ça venait déjà de Marcel qui ne disait jamais « je », qui disait « on ». Probablement parce qu'il savait que tout seul dans ces métiers-là, on n'arrive absolument nulle part.
C'est des génies ou c'est des hommes de la terre? Quand on les écoute, on a l'impression de sentir le terroir. C'est des hommes de la terre qui ont imaginé le ciel?
Floira, oui. C'est un homme de la terre, c'est d'ailleurs même l'accent, même le personnage, à la limite le casting Floira, c'est extraordinaire. Alors que Marcel Dassault, c'était déjà un ingénieur, c'était un Parisien, et c'était un ingénieur cultivé. C'est non seulement quelqu'un qui, dans son domaine, qui avait un très très bon outil intellectuel, mathématique, physique, je rappelle qu'à l'époque il n'y avait pas d'ordinateur, que ces gens-là étaient des créateurs, c'était des architectes, c'était des gens qui avaient dans la tête tous les outils mathématiques et physiques intellectuels nécessaires, mais en plus ils avaient du talent, tout bêtement, ils étaient créatifs. Et ils pouvaient avoir du génie. Dans le cas de Marcel Dassault, oui.
Marc Tronchot.
Les enfants d'Europe 1 s'envoient en l'air. Émission spéciale aéronautique avec Bernard Chabert. On a entendu Sylvain Floira, on a entendu Marcel Dassault. En fait, le premier industriel de l'aviation, il faut remonter peut-être un petit peu plus haut dans le siècle pour le trouver. On le connaît surtout par l'exploit qu'il accomplit en 1909, la première traversée de la Manche. Il se nomme Louis Blériot. En 1959, sa femme, document pour l'histoire, s'exprime au micro d'Europe. Elle revient sur l'exploit de son mari. Elle est interrogée par Daniel Verdier.
Madame Blériot, je vois à votre boutonnière une reproduction de l'avion de votre mari Louis Blériot à l'époque où il avait traversé la Manche. Est-ce que vous vous rappelez de cette époque-là?
Oh, mais je crois bien, comme si c'était hier.
Quelle était son impression avant le départ?
Oh, ben il n'en avait aucune. Mon mari ne s'en faisait pas.
Il n'avait pas tout de même une petite appréhension de faire cette première traversée?
Non. On dit ça dans les comptes rendus du départ, n'est-ce pas? Il faut bien dire quelque chose. On dit aussi qu'il ne savait pas nager. Il savait nager. Il n'avait pas de boussole, ça c'est vrai. Dans son avion. Mais enfin, il était parti droit devant lui. Il avait été un peu dérivé par un vent d'ouest, mais il s'était rattrapé ensuite en voyant la flotte anglaise qui se dirigeait dans la même direction que mon mari a jugé être Douvres. Alors il a fait demi-tour et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé à Douvres au lieu d'aller jusqu'à Sainte-Margaret. Quand il a eu à atterrir, il a dit, ça y est.
Et vous n'aviez pas une petite appréhension à ce moment-là?
Mais non, j'avais une telle admiration pour mon mari. Je partageais sa confiance. Et quand nous nous sommes quittés à 3 heures le matin, moi, pour monter à bord du contre-torpilleur qui le convoyait, et lui pour aller retrouver son appareil, parce que ce n'était pas un avion à cette époque-là, eh bien, nous nous sommes quittés comme si nous allions, lui partait à la chasse et moi à un concert.
Est-ce que vous êtes monté dans cet avion, vous-même?
Oh, jamais de la vie, il avait bien assez de peine à porter. Le poids de son pilote, l'avion songé, il faisait 300 kilos, pilote compris.
Bernard, tu as volé sur...
Volté
sur l'avion de Blériot.
Oui, il y a la Ferté-Alais chez Jean Salis, il y a la plus belle collection d'avions historiques d'Europe continentale, et donc il y a un Blériot 11 qui est le plus vieil avion volant encore dans le monde, qui est un avion complètement contemporain de celui de Louis, avec lequel Jeannot Salis, le maître des lieux là-bas près de Fontainebleau, a lui-même traversé la Manche. Et puis un soir, à la fraîche, je suis monté là-dedans, un peu accéléré, les roues ont quitté le sol, je me suis vite dépêché de laisser redescendre tout ça parce que...
T'es fait peur?
Oui. Ces avions n'étaient pas vraiment des avions au sens où on les entend aujourd'hui, c'était des cerfs-volants avec un moteur. Ça, c'était quasiment ingouvernable, en fait, ça l'était, mais c'est tellement différent, c'était tellement élémentaire, tellement rustique, que franchement, quand on entend ça... Alors, il y a toujours ces mauvaises terminologies employées, les merveilleux fous volants dans leurs drôles de machines, etc. C'est ni drôle, ni merveilleux, c'est vraiment des gens qui en avaient, quoi. C'était véritablement des gens qui... Ils en avaient et ils savaient ce qu'ils faisaient parce que c'était des visionnaires. C'est une race, c'est une période de l'histoire qui est quand même extraordinaire, début du XXe siècle, celle de ces types qui se rassemblaient pour la plupart pas loin d'ici. C'était rue François 1er, le premier aéroclub de France, c'était rue François 1er, juste en face d'Europe. Et là, il y avait toute une assemblée, alors c'était des mécanos, c'était des milliardaires de l'époque, Dutch de la Meurthe et quelques autres. Et puis des sportifs, il y avait Blériot, Farman, etc. Blériot, il avait pas loin d'ici aussi une boutique de phares à acétylène pour automobile qui était avenue de la Grande Armée. Et tous ces types-là vivaient ensemble et ils rêvaient tous ensemble qu'ils allaient monter au ciel avec des machines, avec des ailes. Et ils l'ont tellement rêvé que bon, bah, ça a fini par arriver, quoi. Ils ont changé le monde.
Tu as évoqué tout à l'heure ta naissance, ton adolescence, ton enfance dans ce milieu qu'évoquent tant de grands noms, l'ATECOR, effectivement, l'aéropostal, ils sont plus proches, peut-être davantage ceux de ta génération, tous ces grands noms qu'on évoque quand on parle de l'aéropostal, plus que le Blériot.
Plus que Blériot, oui.
C'est tes héros à toi, je veux dire, les Mermoz, les Cousinier, les...
Saint-Ex, oui, bien sûr, parce que finalement, nous, en France, on a quand même, en culture, je veux dire, on a quand même cette caractéristique unique d'avoir eu un aviateur qui, un beau jour, s'est transformé en autre chose qu'un aviateur, parce qu'il a su prendre dans son métier les éléments qui lui ont permis de se construire en tant qu'auteur, en tant qu'écrivain. Et c'est vrai que c'est propre à la culture française que d'avoir eu une espèce d'individu intermédiaire entre cette notion romantique de l'aviation et cette notion humaniste de l'aviation, et l'aviation au sens technique.
Tous les aviateurs ne pouvaient pas effectivement écrire Le Petit Prince.
Bah oui, puis en plus, Le Petit Prince, faut pas oublier que c'est quand même le best-seller absolu de tous les temps, après les livres religieux ou politiques comme Le Capital, mais c'est quand même le livre le plus vendu et c'est un aviateur français qui l'a fait. Donc on en est tous ceux qui volent en France quelque part ont quelque chose de familial avec un Saint-Ex.
Et ces aviateurs qui sont également des légendes vont être également les références de certains grands journalistes, certains grands écrivains et parfois futurs académiciens sur Europe numéro 1. L'hommage de Joseph Kessel à Jean Mermoz.
Mermoz est mort il y a 30 ans, mais il a commencé à voler après son service militaire il y a 40 ans. L'aviation était encore quelque chose de naturellement pas comparable aux cosmonautes, mais il y avait encore ce frémissement de nouveauté, de danger, d'inconnu, de mystère, qui faisait que le public avait une espèce de passion pour l'aviation. Ce qu'il y a d'étonnant dans le cas Mermoz, si l'on peut s'exprimer ainsi, c'est que ce travailleur obscur sur une ligne, peu à peu, par l'accumulation de ses exploits, par une espèce de vertu obstinée et de simplicité, les nouvelles ont commencé à filtrer sur lui, et dès qu'il a été un peu connu du public, alors son image physique aidant à cela, là, il y a eu une espèce de raz-de-marée de popularité, et à partir de ce moment-là, contrairement à tout ce qu'il voulait, il détestait cela, on a beaucoup parlé de lui, il a été photographié, et ensuite est venu, pour couronner cette carrière, la traversée de l'Atlantique Sud, qui a été semée d'accidents, d'incidents, et qui a fait de lui, peu à peu, un héros national. Et il est mort alors qu'il était au sommet de cette gloire.
Qu'est-ce que cela représentait que la mort de Mermoz en mission il y a 30 ans?
Ça a été un choc immense. Je ne parle pas de moi pour qui... Enfin, c'était une perte terrible et un chagrin dont il m'est même difficile de parler aujourd'hui. Mais les gens s'attroupaient dans les rues, mais on attendait les nouvelles. Et quand on a cru, à un moment donné, à tort, que Mermoz était retrouvé, dans les cinémas, on a arrêté les projections et on a annoncé que Mermoz était retrouvé. C'est vous montrer à quel point sa disparition avait frappé vraiment douloureusement et comme une perte personnelle la population. La chance de Mermoz et la chance, si vous voulez, de cette époque pour les aviateurs, c'est qu'ils étaient bien au-delà d'un chanteur qui émeut à la surface, et ils n'étaient pas de ces hommes lunaires comme sont les cosmonautes, c'était des gens vivants, près du public. On n'avait pas encore les masques pour voler, il y avait le casque de cuir, c'était simplement des hommes qui se détachaient un peu des autres parce qu'ils volaient haut, ils volaient loin et qu'ils prenaient de grands risques, mais ils étaient tout près de l'imagination et de la sensibilité des jeunes gens.
J'ai l'impression, Bernard, de te faire réécouter les voix des amis de ta famille.
Oui, parce que pendant la guerre, à Casablanca, où mes parents habitaient, ils avaient un grand appartement duplex, et mon père, à l'époque, essayait de sauver ce qui restait d'Air France. Et parmi ceux qui habitaient par petites tranches, une semaine par-ci, une semaine par-là, dans ce grand appartement, il y avait Syntex et Kessel. Et le soir, ils se lançaient dans des discussions, ils refaisaient le monde, ce qui est un peu normal avec un Kessel et un Syntex. Mais j'imagine, quand mes parents me parlaient de ça, ils en parlaient comme de quelque chose tout à fait normal en disant tiens, machin est venu dîner, quoi. Et machin c'était Kessel et l'autre c'était Syntex. Et puis il y avait d'autres personnages assez étranges, Norbert Casteret, par exemple, l'inventeur de la spéléologie. Et tous ces gens-là qui étaient des
gens de l'extrême d'une certaine façon, comme on dirait aujourd'hui.
Oui, c'était des aventuriers avec A majuscule, mais quand on parle par exemple de Mermoz, il faut bien imaginer aussi le casting du personnage. Mermoz, c'était la tête de Chopin sur le corps de Schwarzenegger, et c'était un type absolument fabuleux. Il avait un charisme et une aura, Kessel le dit bien, quand il a disparu, c'était un deuil national. Ces gens-là, à cette époque-là, ont écrit des histoires dont on peut se dire qu'elles n'auront jamais plus d'équivalent. C'était parce que c'était des types tout à fait normaux, avec leur cigarette au bec. À l'époque, on fumait beaucoup, on ne savait pas que c'était dangereux. Ou alors, on faisait des choses bien plus dangereuses. Et puis ils vivaient bien, ils rigolaient bien, ils buvaient des canons, ils s'amusaient. Et c'était des gens qui étaient normaux, mais qui faisaient des choses tellement immenses pour l'époque. Il faut se rappeler qu'on était, Mermoz est mort en 36. Et 30 ans auparavant, la sphère de vie d'un homme normal, même s'il était fortuné, mesurait la distance que sa calèche attelée d'une jument pouvait parcourir dans la journée. Le monde était immense à l'époque.
Tu rappelais tout à l'heure que quand tu commences à Europe, c'est d'abord pour t'occuper de l'espace d'Apollo 14. Apollo. On va écouter d'ailleurs un son de cette époque-là tout à l'heure. Mais avril 61, tu t'en souviens ?
Ah bah oui, forcément, moi j'étais pensionnaire à l'époque, et un beau matin, dans mon lycée à Toulouse, on a appris qu'il y avait ce type, ce russe...
Qui tournait autour de la Terre.
Qui tournait autour de la Terre, quoi.
On va l'écouter, Youri traduit par Albert Gagarine par Ducrot.
Et maintenant, écoutez Youri Gagarine, il parle à la Terre depuis le Vostok, écoutez sa voix. Je vois la Terre, la visibilité est bonne, je vous entends parfaitement, le vol se poursuit normalement. Je vois la Terre, on peut tout voir, certains points du ciel sont couverts de cumulus. Le vol continue, tout fonctionne parfaitement, nous continuons, je me sens bien, le moral est bon. Je poursuis le vol, tout va bien, l'engin fonctionne normalement. Le commandant Youri Gagarine est revenu sain et sauf sur la Terre. Le premier vol humain dans l'espace cosmique s'est déroulé avec un complet succès.
Youri Gagarine traduit par Albert Ducrot. Albert Ducrot, premier consultant de l'histoire de la radio, premier consultant scientifique. C'est un aspirateur, c'est un homme qui confirme ou qui fait naître des vocations.
Je pense qu'il a fait naître énormément de vocations.
Tu en fais partie ?
Pas vraiment. Mais par contre, j'étais un admirateur, comme tout le monde, d'Albert Ducrot.
Toi, ta vocation, elle était...
Elle était ancrée déjà auparavant. Mais quand je me suis trouvé en face d'Albert, je dois dire qu'au début, j'étais un peu déçu. Parce que Albert était comme Jules Verne. C'est un gars qui voyageait plus dans sa tête que physiquement. Mais à côté de ça, Albert avait, et c'est ce qui était magique chez cet homme-là, c'était la capacité d'appréhender, de raconter, de comprendre les choses, peut-être même mieux que ceux qui les vivaient. Si on parlait de voyager en orbite autour de la Terre à l'intérieur d'un vaisseau spatial, si on parlait de ça avec Albert, on avait l'impression qu'il avait fait, lui, 6 vols orbitaux avant.
Oui. Mais c'est vrai qu'il était plus un spécialiste de physique quantique que d'aventure.
Je pense que c'était chez lui une espèce de snobisme que de vouloir se focaliser sur l'aventure de l'esprit, de la science, plutôt que sur l'aventure physiologique, on va dire. Mais en réalité, je pense que Albert, quelque part, devait regretter de ne pas être un homme d'action, de ne pas avoir ce talent de savoir s'engager personnellement, monter dans la fusée éventuellement.
Mais il s'est bien engagé au micro, en tous les cas.
Ah ben oui, mais en plus, il l'a fait d'une manière tellement belle, Certains le trouvaient original, d'autres riaient un peu de lui, parce que c'est vrai qu'il avait son style. Il y avait Albert Simon et Albert Ducrot, hein, les deux Albert. Mais d'un autre côté, c'est incroyable ce que cet homme-là a fait passer en direction d'une audience vraiment nombreuse. Ben, c'est simple, quoi. On écoutait Albert à Europe, et ben, on avait l'impression, 5 minutes après, d'être bien plus intelligent que 5 minutes plus tôt.
On se retrouve quelques instants, une pause, et puis retour dans l'espace.
Les enfants d'Europe 1, Marc Tronchot.
L'entrée à Europe, on le disait tout à l'heure, pour Bernard Chabert, elle se fait en 71. On a dit dans quelles conditions, on a dit qui en était à l'origine. 71, c'est l'année d'Apollo 14, en direct de Houston, sur Europe numéro 1, Bernard Chabert.
Shepard, Brousin et Mitchell vont être réveillés dans une vingtaine de minutes. Comme à leur habitude, ils ont bien dormi. Voilà donc un équipage qui se fabrique depuis 3 jours une solide réputation de bon mangeur et bon dormeur. Mais il parle peu et ne pratique pas facilement l'humour. Peut-être se réserve-t-il pour les 2 jours d'activité lunaire. Toujours est-il que cet équipage de gens calmes aura une mauvaise surprise lors du réveil lorsque Houston leur annoncera que l'une des 2 batteries de l'étage de remontée du module lunaire ne donne pas le voltage prévu. Ils devront donc consacrer une petite heure à cet ennui. De toute façon, si cette batterie numéro 5 reste là où elle en est sur le plan voltage, l'alunissage aura lieu comme prévu. C'est ce que nous a affirmé il y a 1 heure environ Pete Frank, l'un des 3 directeurs de vol, le patron de l'équipe Orange. Je crois qu'il faut dire un mot de Pete Frank. C'est un homme de 35 ans environ, qui a une tête d'adolescent prolongée et bien nourrie. Il a les cheveux coupés en brosse, sourit tout le temps et ne sait quoi faire pour mieux vous expliquer comment ça se passe là-haut. Il agite les mains, il pousse d'imaginaires boutons et on s'attend presque à le voir monter sur la table et nager la brasse pour nous démontrer qu'il est très facile de se mouvoir en apesanteur.
Ok, Antares, Kitty Hawk on A-Semplex, Antares.
Ah, Roger. Kitty Hawk, Antares, reach your line clear, is it right?
Your line clear, in?
Same here.
Your line clear, out.
Roussa, ok. Ici module de commande, nous prenons contact. Je vous reçois net et clair, bonne chance. Shepard, merci. Je te reçois également clair et net, bonne chance aussi.
Le prochain événement prévu est la correction de trajectoire qui aura lieu aux alentours de 3h du matin, heure de Paris. À ce moment-là, le moteur du module de service sera mis à feu pendant 1,5 secondes, de façon à ajouter 1 mètre/s à la vitesse du vaisseau spatial. Puis à 8h01, heure de Paris, les choses sérieuses commenceront avec l'injection sur orbite lunaire. Ensuite, eh bien, nous vivrons les 48 heures extraordinaires de la visite à la Lune que feront Shepard, Mitchell et Rosa.
C'est émouvant de se entendre comme ça, Bernard ?
Ouais, ouais. C'est, je trouve que c'est surtout le plus étonnant, c'est finalement de se rendre compte à quel point, allez, je vais le dire, à quel point on s'est appauvri depuis. À cette époque-là, il faut quand même penser que tous les 4 mois, bon, c'était quand même une époque où il y avait la guerre du Vietnam, il y avait quand même quelques soucis dans l'actualité. On était encore quand même dans la politique des 2 grands blocs, on avait des parapluies nucléaires mégatoniques de part et d'autre. Et au milieu de tout ça, il y avait ces espèces d'îlots d'espoir et d'aventure avec... mais l'aventure presque... l'aventure comme on l'aimait quand on était petit et qu'on lisait Tintin. Une belle aventure. Et tous les 4 mois, on allait à Houston.
Objectif
tous les
lune.
Voilà. Bah oui, Hergé l'avait ouais. Il avait déjà capturé l'idée où il avait annoncé l'ambiance avant même qu'on la vive pour de vrai. Et moi, je me souviendrai toujours de ces soirées à Houston parce que avec le décalage horaire, ça jouait, hein, évidemment, entre les papiers que j'envoyais pour Europe et puis la vie là-bas. Et donc, passer des soirées assis le derrière dans le gazon bien coupé à l'américaine devant la piscine d'un hôtel avec un verre à la main à regarder la lune parce que souvent la lune était visible en période de mission, on regardait la lune avec un verre à la main et puis assis à côté il y avait Norman Mailer par exemple, il y avait aussi quelques pointures intellectuelles de l'époque qui étaient là et qui venaient couvrir ces vols lunaires, c'était fabuleux.
Comment tu faisais pour avoir tous ces détails là? Tu dis à un moment donné ils vont se réveiller, ils vont avoir une mauvaise surprise et alors là tu pars dans un truc...
Parce que ça a été pour moi une immense leçon aussi que de travailler avec les gens de la NASA de l'époque. Et je spécifie de l'époque. La NASA, à l'époque, était une agence totalement ouverte. Elle l'est toujours, mais comme il y a des missions du département de la défense...
Donc il y avait un accès à l'info qui était
tout.
Parfaitement...
Moi, je suis arrivé à Houston, boulimique en information, débarquant de la rue François 1er. J'arrive à Houston, je vais à la salle de presse. Une secrétaire me dit « Vous voulez de la doc ?» Je dis « Oui, je signe tout » et je me retrouve avec... Je les ai pesés, 61 kilos. kilos de documents concernant les tout ce qu'il faut savoir pour faire marcher un module lunaire, un module de commande, etc. Et c'était fabuleux. Et donc, on s'en servait. Et journalistiquement parlant, c'était une manne. C'était fabuleux.
À l'époque, tu fais un peu de tout sur l'antenne d'Europe 1. Deux ans plus tard, on est toujours un peu dans l'espace. Parce que tu vas dans l'émission Radio 2 avec Marc Garcia.
Avec Marc.
Te rendre complice d'un canular dans la tradition d'un certain Orson Welles. Raconte, parce qu'on n'a pas retrouvé le document, je le dis aux auditeurs. Bah, on continue à chercher, mais on ne l'a pas trouvé pour le moment.
Bah, c'était le 1er avril 72.
Ah bah c'est pour ça.
Ouais. Et donc, on avait décidé, pour fêter le 1er avril, avec Marc Garcia, on avait monté, on s'était dit, tiens, Orson Welles avait fait un carton avec La Guerre des Mondes de H.G. Wells, et si on refaisait, on va s'inspirer complètement de ce qu'avait fait Orson Welles, en 1938, je crois, ou 39. Et donc, on a refait La Guerre des Mondes. Mais alors, on a fait bien. C'est-à-dire qu'on avait réalisé de fausses interviews à Orly d'un équipage d'Air France qui, rentrant de Madrid sur Paris, avait, à la tombée de la nuit, vu une soucoupe volante ou un truc bizarre, un ovni. Il y avait, alors, Gérard Klein, à l'époque, boudait, et il habitait aux étangs de Hollande. Il avait une espèce de lieu retiré très écologique. Et donc, on avait imaginé que les Martiens revenaient et qu'ils se posaient à minuit pile, évidemment, devant la maison de Gérard Klein. Mais notre truc a fini par prendre, c'était pas mal fait. Marc Garcia était un grand réalisateur et on avait, par petits bouts de fausses interviews, etc., on avait monté ça tellement qu'au bout d'un moment, on a eu 4000 appels, je crois, dans la soirée. Et il fallait dire, madame, sortez la tête du four, s'il vous plaît, ceci n'est qu'un gag. Parce qu'en plus, on avait quand même les vrais flashs aux heures rondes qui tombaient et qui, eux, ne parlaient pas de martiens. Et là où c'est devenu vraiment grandiose, c'est quand Michel Legrand, grand musicien connu, qui habitait pas loin de Gérard Klein, nous téléphone et dit je veux passer en direct à l'antenne. Il dit on est avec des copains, on est en train de dîner, mais c'est fabuleux votre truc. Et il nous a livré un témoignage en disant qu'il avait vu une lueur et tout. Et donc certains auditeurs réputés comme Legrand se sont mis dans le jeu et on a atteint vraiment un canular colossal. Quoi.
Et ce qu'il faut
le
dire,
lendemain, Georges Pompidou est mort.
Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est effectivement la veille d'un moment tragique. Il y a évidemment, dans une émission comme celle-ci, un avion qu'on ne peut pas ne pas évoquer. C'est Concorde. Il fait ses adieux au Bourget il n'y a pas si longtemps. C'était en 2003. Le reportage est signé Jean-Philippe Ballas.
Attention, oreilles sensibles, s'abstenir. Dans quelques secondes, Concorde va passer juste au-dessus de votre tête. Et cette fois, c'est sûr, c'est la dernière fois qu'il fait hurler ses réacteurs au nord de Paris. Une ultime boucle entre Roissy et le Bourget. L'instant est historique. Les rayons du soleil sur la carlingue, feu allumé et train d'atterrissage sorti. À sa façon, Concorde vous dit adieu avant d'entrer au musée. Et quelques minutes avant de toucher terre, Concorde a été salué par la fine fleur de l'aéronautique. Le spectacle est toujours impressionnant, comme ce looping réussi par un hélicoptère, le Tigre, les pales et le pilote à l'envers, au ralenti. Tandis que la patrouille de France lâche ses fumées bleu-blanc-rouge, le chasseur Rafale monte en flèche et les gros Airbus exécutent quelques virages très serrés. Un ballet de haute maîtrise pour faire oublier quelques instants la crise du transport aérien et l'absence remarquée des grands patrons de l'industrie américaine. Ils n'ont pas fait le déplacement cette année, malgré les adieux du Concorde, officiellement pour des raisons économiques et d'emploi du temps.
On pense bien sûr aux victimes de l'accident du Concorde, mais on peut pas ne pas sentir aussi de l'émotion quand on écoute le bruit de cet avion qui, pour ses adieux, effectivement, en 2003, ça a été quand même un avion tout à fait particulier dans cette histoire de l'aviation.
Bah, l'avion était particulier, finalement. C'est de même qu'on disait autrefois qu'un compagnon du devoir réalisait un chef-d'œuvre dans sa vie. Et ben là, cet avion-là, c'est un chef-d'œuvre. Pour moi, c'est très personnel, mais ma femme était hôtesse sur Concorde pendant une dizaine d'années, en même temps que moi j'étais petit journaliste à Europe 1. Et j'ai un souvenir, pour moi, Concorde, c'est extraordinaire, c'est en 77, au tout début, elle était hôtesse au tout début sur cet avion, et il y avait que trois avions en route à Air France à l'époque, et un jour, pour une raison technique, dans l'après-midi, moi je l'ai amené, on avait déjeuné ensemble dans un restaurant chinois du Bourget, je l'ai déposé à Roissy, à Charles de Gaulle, à 13h30, Et je suis revenu la chercher à 23h30. Entre les deux, j'étais revenu ici à Europe. J'avais passé une partie de l'après-midi là. Et puis après, j'étais allé voir un film et j'étais remonté à Roissy. Entre 13h30 et 23h30, en 1977, elle était allée à Washington et elle était revenue. Aujourd'hui, ça paraît... on ne sait pas faire, on ne sait plus faire. Et c'était magique, cet avion-là. Alors, il y avait ça, et puis il y avait le fait que l'avion, il était beau, évidemment. Et puis, quand on volait dedans, c'était époustouflant. Et j'ai eu la chance de le piloter un peu. Et j'ai quelques souvenirs étonnants, en particulier celui d'un retour de nuit entre Rio et Dakar, au beau milieu de la nuit, très très haut, hein, on volait à presque 20 km d'altitude dans cet avion, et devant j'étais au cockpit, et sur l'avant il y avait une lumière, et on s'est demandé pendant longtemps, mais c'est quoi cette lumière qui est plus bas que nous? Et en fait, après on a réalisé que c'était Vénus, mais que on volait tellement haut, la courbure de la Terre, etc., on a l'impression qu'elle était plus bas que nous. On voyait la Terre devant nous, courbe, et on a l'impression de s'approcher du bord d'une falaise derrière laquelle on allait tomber.
Il n'y a plus la Lune, il n'y a plus Concorde. Qu'est-ce qui fait rêver aujourd'hui le jeune Chabert qui est peut-être quelque part en train de nous écouter?
Moi, je dirais que j'ai la chance d'avoir un fils qui fait le métier que j'aurais voulu faire. Il est pilote de ligne et ça m'arrive de temps en temps de voler avec lui. Et il n'y a pas longtemps, j'étais avec lui. Et quand on survole le nord du Groenland et que pendant 4 heures de temps, on ne voit rien en bas que de la glace, il y a peut-être des ours blancs, mais comme ils sont blancs, on les voit mal. Et qu'on se rend compte que cette planète est fabuleuse, que c'est un endroit béni. Et que l'avion est probablement l'un des outils les plus émerveillants qui existent. Moi, je suis triste quand je suis dans un 777 ou un Airbus 340 de voir que personne regarde dehors, parce que dehors, c'est extraordinaire. Et comme j'ai la chance d'avoir un fils qui fait ce métier-là, je m'invite chez lui dans son bureau et puis je regarde dehors. Et déjà ça, bon, bah, ça m'émerveille. Il n'y a peut-être plus le rêve comme on l'avait à l'époque d'Apollo.
Alors, on va faire un petit retour en arrière, comme une émission sur l'aéronautique ne se conçoit pas sans parachute. Je résiste pas à l'envie de vous faire écouter un reportage diffusé sur l'antenne d'Europe 1 en 1955. On va boucler la boucle. Une femme, Odette Rousseau, s'apprête à battre le record de saut en parachute. Écoutez, c'est du vécu, c'est du reportage, c'est Europe 1.
Je suis sur l'aérodrome de Gizy, près de Sens, où j'attends avec quelques camarades autour d'une voiture radio du centre d'essai en vol de Bretigny l'arrivée de l'avion à bord duquel la jeune parachutiste Odette Rousseau se trouve en ce moment et à bord duquel elle est en train de tenter son record du monde. Un record du monde qui était détenu depuis 2 ans par la parachutiste soviétique Seliver Stova, qui avait effectué 6500 mètres de chute libre en sautant de 8000 mètres et en ouvrant son parachute à 1400 mètres environ. Odette Rousseau, qui est âgée de 28 ans et titulaire de 230 sauts, elle est monitrice de parachutisme. C'est grâce naturellement au centre d'essai en vol de Bretigny qu'elle a pu prendre place à bord d'un avion qui pourra la monter, elle l'espère, à 8000 mètres et peut-être au-dessus. Elle m'a même dit avant-hier, sous le sceau du secret, 8500 mètres. L'avion a décollé depuis environ 50 minutes. Il doit se trouver maintenant presque à la verticale du terrain. Et c'est pourquoi je vais m'approcher de la voiture radio du centre d'essai en vol pour savoir quelle est la position de l'avion. Sur le terrain, on a allumé un grand feu de broussailles alimenté par du mazout de façon à signaler notre position à l'avion qui vole en ce moment très haut.
Bravo Tango, les voitures radio, je vous reçois 2 sur 5, avez-vous une communication à vous?
Ok, elle vient de partir, parachutage effectué.
Il y a 2 minutes 15 que la parachutiste a sauté. La voilà. Elle descend en chute libre. Elle n'a pas ouvert encore. Ça y est, le parachute est ouvert. Elle est tombée malheureusement assez loin du terrain. Et elle a ouvert son parachute dans les temps donnés. Elle est donc record woman du monde. Nous allons essayer de la joindre immédiatement. Il y a 5 minutes environ que nous la cherchons. Et je crains qu'elle ne soit tombée beaucoup plus loin du terrain que nous n'avons pu l'estimer. C'est-à-dire qu'elle a dû tomber environ à 6 km du terrain. Nous sommes maintenant sur les bords de Lyon et malheureusement elle est tombée dans l'eau. Elle est tombée dans l'eau, on vient d'aller la rechercher. Nous sommes en barque maintenant sur Lyon et les témoins de la chute d'Odette Rousseau nous disent qu'elle est vraisemblablement blessée. Effectivement, je vois le parachute et Odette est couchée au fond d'un bateau. Nous allons nous approcher. Ça va Odette?
Quelle horreur!
Un moment. Pour prendre des photos.
C'était trop, l'air ne portait pas. Alors, je me suis mise sur le dos.
Vous aviez l'appréhension d'atterrir dans l'Yonne.
Oui, et j'avais raison.
Odette Rousseau vient de se remettre, on l'a ramenée au terrain de Gizy. Elle semble encore très fatiguée. Les parachutistes du terrain, ils sont très peu nombreux, l'applaudissent pendant qu'elle rentre dans le bureau. Vous venez de vous remettre à peine de vos émotions, mais racontez-nous en quelques mots votre saut.
Tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis sortie de l'avion, il me semble, à mon alti, à moi, à 8006, je crois, n'est-ce pas ? L'air, je n'ai pas pris de choc ni rien, mais comme il y avait très peu d'air, je ne me suis pas stabilisée tout de suite. Alors je suis passée sur le dos, comme les anciens m'ont dit de faire, et je suis restée peut-être pendant 15 secondes sur le dos. Je me suis ensuite restabilisée très parfaitement, et je n'ai pas bougé jusqu'à 400 mètres. Alors à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'étais au-dessus de Lyon, et j'ai compris tout de suite que je tomberais dans l'eau. Alors, j'ai essayé d'éviter en tirant le plus que je pouvais sur la gauche, mais j'étais empêtrée dans tout ce que j'avais sur moi, c'est-à-dire l'altimètre très lourd, le barographe que je ne voulais pas abîmer après ce saut, et au lieu de tomber en dehors, je suis tombée dans l'eau. Là-dessus, je me suis enfoncée, j'ai pataugé un peu, il y avait des herbes, je me suis accrochée aux herbes, mais je m'enfonçais, et si ce marin n'était pas venu, je lui dois la vie et je le remercie, eh bien, je serais peut-être au fond maintenant. J'ai battu le record du monde de jour, certainement, et qui me manque très peu pour le record de nuit. Alors je le ferai quand même, et je retomberai dans l'eau, mais je le ferai.
Reportage signé Pierre Zanettacci. Formidable reportage. Il y en a des fous, des folles, des grands, des grandes dans cette histoire de l'aviation, Bernard.
Ouais, il y en a. Et puis, il y en a de toutes les sortes. Il y a des gens qui sont tout à fait au premier degré. Et puis, il y a des gens qu'on croit connaître. Et j'ai un exemple qui me vient. C'est Jean-Loup Chrétien, par exemple. Pour beaucoup de gens, c'est un cosmonaute. C'est le premier Français à avoir volé dans l'espace. Et Jean-Loup a toujours su faciliter. C'est un seigneur. Mais en plus, Jean-Loup, on découvrait en le connaissant qu'il était passionné d'orgues anciens, qu'il avait restauré d'ailleurs des orgues dans le sud-est de la France. Bon.
Son complice Patrick Baudry est pas mal aussi dans le genre.
Oui, mais il fait pas de l'orgue, Patrick. Ouais. Mais bon, il y a des gens là-dedans extraordinaires. Et finalement, l'aventure du ciel, c'est peut-être une des dernières qui reste. Et en plus, c'est une aventure quand on la vit à travers un parachutiste, un pilote sportif, un pilote de vol à voile, à travers un astronaute ou un cosmonaute. On est dans un milieu qui est un peu à l'écart du monde actuel, parce que c'est pas les mêmes motivations. C'est souvent des motivations très simples, très pures. C'est simplement l'envie de voler, quoi. Et puis, ça peut amener très très loin.
Alors, ceux qui ont écouté cette émission ont noté qu'à un moment donné, j'ai évoqué ta carrière de chanteur qui malheureusement n'a pas été suffisamment longue. Tu as quand même enregistré 3 disques. À un moment, tu étais très.
4.
Musique un peu californienne.
Tout à fait.
Avant de devenir un journaliste très sérieux qui s'occupait de l'espace. On a retrouvé un bout, un extrait. Ça s'appelle Tramway 7B. T'es toujours dans les transports, mais là, c'est la chanson.
J'aime un vieux tramway tout déglingué qui porte le numéro 7B. Le machiniste s'appelle Ulysse, il lit Homer avec un air triste.
Tramway 7B, interprété par Bernard Chabert. Bernard Chabert, consultant d'Europe 1 pour toutes les questions aéronautiques et vedette de la chanson il y a quelques années. Merci Bernard pour cette émission, Marc, qui ressemblait presque à un plan de vol. Les enfants d'Europe 1, c'est chaque dimanche de 10h à 11h. On se retrouve donc très vite. Bonne fin de week-end, bonne semaine et surtout, bonne radio.